nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Spectacle merveilleux, mes amis, que celui de Jésus qui est nimbé de gloire, ce Jésus qui est entouré des deux figures qui incarnent, comme vous le savez, la loi et les prophètes, c'est-à-dire toute l'ancienne écriture, mais partant toute l'ancienne économie, Moïse, la loi, Élie, les prophètes. Et comme si cela ne suffisait pas, pour ajouter encore la touche finale à ce spectacle incroyable, la voix qui sort du ciel, du Père éternel, et qui atteste de l'identité réelle de notre Seigneur. On devine qu'il y eut dans l'épisode de la Transfiguration, dans le cœur des apôtres, quelque chose de tout à fait particulier. Les trois seuls apôtres qui en furent témoins ont dû garder cela comme un trésor qu'ils avaient reçu de la gratuité de Jésus. Pourquoi ces trois-là et pas les autres? Parce que le Seigneur voulait confier à Jacques, Pierre et Jean la mission toute particulière d'être les trois premiers de cordée du collège apostolique et plus largement de toute l'Église universelle. Alors il s'est passé dans leur intelligence, il s'est passé dans leur cœur quelque chose de très grand. Et en permettant que cette scène nous soit aujourd'hui relatée par la lecture à la messe de l'Écriture, Dieu veut que cet épisode soit accessible à tous les fidèles de tous les temps. C'est-à-dire, en réalité, par le truchement de la liturgie, qu'il se passe en notre cœur et en notre intelligence quelque chose d'analogue, quelque chose de comparable à ce qui s'est passé, voici 2000 ans, dans la tête et dans le cœur de ces trois apôtres. Pour comprendre ce que fut réellement naguère la Transfiguration, ce qu'elle a offert aux trois apôtres et ce qui nous est aujourd'hui offert de goûter, il faut, je crois, replacer ce passage dans le contexte plus large de tout l'Évangile. C'est d'ailleurs ainsi qu'il faut en permanence scruter les Écritures, qu'il faut en permanence lire l'Évangile. Je fais une petite parenthèse, un cours de Lectio Divina, si j'ose dire. Trop souvent, mes frères, nous nous contentons de la lecture de l'Évangile du dimanche. C'est déjà pas si mal, mais laissez-moi vous dire que ce n'est rien. Il y a de ces lectures de l'Écriture qui sont tout à fait mortifères. Lorsqu'on isole un événement, lorsqu'on isole ce qu'on appelle en exégèse une péricope, au détriment de tout le reste de l'Écriture. C'est, je vous ferai remarquer, la technique qu'utilise à la perfection Lucifer, notamment lorsqu'il parle à Jésus dans les trois tentations du désert, dont le récit vous a été fait la semaine dernière. Que fait Lucifer dans la plus percutante des tentations? Il emprunte les paroles mêmes de l'Écriture. Mais attention, il les isole de leur contexte. Et il en fait la tentation qui a été la plus cuisante pour notre Seigneur. Il est encore une autre erreur que l'on fait en utilisant, en isolant tel ou tel passage de l'Écriture, en ne replaçant pas ce passage dans tout son contexte, dans l'ensemble de l'Écriture, c'est ce que l'on appelle l'hérésie. Hérésie, ça veut dire le tri. L'hérétique n'est pas celui qui se revendique d'écriture fausse, c'est beaucoup plus subtil que cela. L'hérétique, c'est celui qui exalte un passage de l'Écriture ou de la tradition au détriment de tout le reste. Voyez comme nous avons intérêt à prendre l'Écriture dans son ensemble. Alors je vous ai exposé là des motifs, bien sûr, un peu négatifs, mais il est un motif beaucoup plus positif, qui est, comme cela, de pouvoir entrer dans la connaissance du dessein général de Dieu, de toute l'économie. On gagne toujours à connaître l'ensemble d'une œuvre plutôt qu'un simple détail. Qui aurait l'idée de ne regarder sur un tableau qu'un élément et non pas la totalité du tableau? Il faut avouer que pour arriver au paroxysme de la joie, je parle là de la joie du regard, il nous faut regarder la totalité du tableau. Eh bien, agissons de même vis-à-vis de l'Écriture qui nous donne accès à la totalité de cette œuvre magnifique de la création et de la rédemption que Dieu nous offre. Bref, je referme la parenthèse pour essayer de vous dire quelques mots sur ce que la lecture plus large de l'Évangile, et pas seulement de cet épisode de la Transfiguration, nous permet de comprendre sur ce qu'il fut donné aux apôtres de goûter le jour de la Transfiguration et sur ce que le Saint-Esprit nous offre à nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard, qui contemplons cette scène de la Transfiguration. Un détail, la Transfiguration a eu lieu après l'annonce de la Passion par le Seigneur Jésus. Annonce qui évidemment provoqua la peur, qui provoqua la déception dans le cœur des apôtres et qui provoqua même dans le cœur de Saint-Pierre le refus que l'on sait. Hein. Dieu t'en préserve, Seigneur, cela n'arrivera jamais, souvenez-vous. Et souvenez-vous de la réponse du Seigneur Jésus, arrière Satan, tes voix ne sont pas mes voix. Hein. Il y a donc, chez les apôtres, juste avant la transfiguration, une épreuve très cruelle, l'annonce de la passion. Et quelques jours plus tard, quelques jours après la transfiguration, parce que le jour de la transfiguration, Jésus et les apôtres sont en marche vers Jérusalem où Jésus va être crucifié, quelques jours après la transfiguration, que va-t-il advenir ? On va dénoncer Jésus comme étant un traître au regard de la loi ancienne. Et on va dénoncer Jésus comme étant un faux prophète. C'est pourquoi, le jour de la transfiguration, le fait que Moïse, qui incarne la loi, le fait que Élie, qui incarne les prophéties, soit à la droite et à la gauche de Jésus, dans une position de révérence à son égard, sont une sorte de consolation par avance et une confirmation par avance qui permettront aux apôtres d'affronter les tentations et la douleur de la séparation au cours de la Semaine Sainte. Vous me suivez ? Il y a donc, dans la disposition des événements, dans la disposition des textes, quelque chose qui nous instruit sur l'importance de la transfiguration. Si nous avions lu d'emblée uniquement la transfiguration, le récit de la transfiguration, sans le replacer dans son contexte, nous ne comprendrions pas qu'il est, cet événement de la transfiguration, un événement de consolation et un événement de confortation ou de confirmation dans la foi des apôtres. C'est exactement la même chose qui nous est offerte aujourd'hui. Nous sommes en plein carême, dans ce désert du carême, et plus largement dans cette vallée de larmes dont parle le Salve Regina, cette difficulté de la vie, nous l'éprouvons quasiment chaque jour. Eh bien, le récit de la transfiguration est là pour nous fournir de l'onguent, pour adoucir nos cœurs, pour adoucir notre intelligence plutôt, et réconforter nos cœurs, et pour confirmer notre foi en Jésus-Christ. Il y a dans la parole de Dieu quelque chose de performatif, quelque chose de plus que la voix qui est en train de vous parler actuellement ou que la voix de celui qui vous récite une histoire. Il y a une toute puissance dans la parole de Dieu qui opère ce qu'elle annonce. Autrement dit, lorsque nous écoutons le récit de la transfiguration, lorsque nous le méditons en le replaçant dans son contexte, alors nous sommes vraiment consolés, alors nous sommes vraiment confortés dans notre foi. Mais il y a encore autre chose. Lorsqu'on regarde les versets qui précèdent immédiatement ce récit de saint Matthieu, que découvre-t-on ? Une phrase très mystérieuse. Jésus dit à ses apôtres, vous connaissez cette phrase, mais vous ne saviez sans doute pas qu'elle était juste avant le récit de la transfiguration, et ce n'est pas anodin. En vérité, je vous le dis, il en est qui sont ici présents, qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir en son royaume. » Ces paroles mystérieuses de Jésus, on n'en comprend pas le sens si l'on ne sait pas qu'elles sont prononcées juste avant la transfiguration. Que se passe-t-il à la transfiguration, la réalisation de cette annonce ? Il en est d'ici présent qui ne goûteront pas la mort, Pierre, Jacques et Jean ne sont pas encore morts le jour de la transfiguration, et qui verront le Fils de l'homme venir avec son royaume. Autrement dit, le Saint-Esprit, par la main de saint Matthieu, par la disposition des textes dans l'Écriture, nous fait comprendre que la scène de la transfiguration correspond à la révélation du royaume. Ce qu'ont vu Pierre, Jacques et Jean sur le mont Tabor, le jour de la transfiguration, ce n'est rien moins que le royaume de Jésus et Jésus dans son royaume. On dirait, bon, nous ne voyons pas très bien où vous voulez en venir. Oui, mais c'est très important. Les apôtres étaient juifs, c'est-à-dire qu'ils baignaient depuis le plus jeune âge dans cette perspective juive d'un royaume qui viendrait après la mort, d'un royaume qui ne viendrait pas sur cette terre. Or, qu'apprennent-ils, que comprennent-ils le jour de la transfiguration ? Que le royaume est déjà advenu. Lorsqu'ils voient Jésus nimbé de gloire, lorsqu'ils entendent la voix du Père éternel, et lorsque le scintillement, qui est le Saint-Esprit, de manière symbolique, leur apparaissent tous les trois, et que Jésus est entouré de ces deux grands piliers de l'ancienne alliance, Moïse et Élie, alors ils comprennent que le royaume est déjà advenu. Imaginez quelle consolation, imaginez quelle libération ce fut pour ces apôtres. Imaginez combien nous aussi nous avons à méditer cela. La scène de la transfiguration, c'est le royaume déjà présent. Trop souvent, nous nous plaignons que les choses vont mal, nous nous plaignons que vraiment Dieu se fait trop attendre, que nous n'en pouvons plus d'attendre et attendre encore ce royaume qu'il nous annonce pourtant depuis le début de sa vie publique. Mais mes frères, avons-nous compris que le royaume est déjà là, que nous sommes déjà les saints dans le royaume? Non pas que nous soyons des purs, à la manière de ce qu'ont compris les gnostiques de toute race, mais que nous sommes déjà régénérés par le sang de Jésus-Christ, déjà vivifiés par l'Esprit-Saint. La voix du Père sort déjà du ciel en disant « Ils sont mes fils bien-aimés ». Nous sommes déjà dans le royaume des cieux. Alors, que représentent ces petites épreuves que nous traversons? Des épreuves parfois cuisantes, bien sûr, la perte d'un être cher. Des épreuves parfois cuisantes parce qu'on nous persécute. Je rentre du Moyen-Orient, où j'ai vu ces tensions latentes au sein même de la Cité Sainte. Ce mépris, cette détestation entre les Juifs, les musulmans et les chrétiens. Je vois bien de quoi l'on parle quand on dit que le Moyen-Orient est en feu. Je sais de quoi l'on parle lorsqu'on dit que la France se déteste elle-même, que les Français ne se supportent plus. Lorsque, rentrant de Terre Sainte, je sors de l'aéroport et je vois ces Français avec des regards d'enterrement qui semblent se mépriser les uns les autres. Oui, certes, la vie est dure, mais ces épreuves de la vie ne sont rien quand on sait déjà que le royaume de Dieu est advenu, que nous sommes déjà les saints du royaume de Dieu. Voyez combien nous avons à nous nourrir de ces scènes de l'Écriture, combien nous avons à faire notre miel de cela. Ce n'est pas une simple discussion de comptoir, ce n'est pas simplement un mot que je dois prononcer le dimanche parce que c'est quand même mon métier, il faut que je m'en acquitte. C'est, mes amis, la consolation que Dieu nous apporte, dont je dois être le témoin. Demandons au Saint-Esprit de bien nous pénétrer de cet esprit de la transfiguration. De grâce, ne sortez pas de cette messe en consacrant votre dimanche à tout autre chose qu'à encore et encore reconsidérer cette scène. Vous pouvez une fois ou deux fois dans la journée, ce n'est pas trop, ça représente 5 à 10 minutes, repenser à cette scène avec le commentaire que j'essaye d'en balbutier. Alors vraiment, vous goûterez de cette consolation du royaume qui est déjà advenu. Vous voyez qu'il nous faut entrer dans le désert, mais pas seulement pour s'acquitter de quelques obligations de combat, de jeûne, de prière et d'aumône. Il nous faut entrer dans le désert pour plus facilement, parce que nous sommes dégagés d'autres activités, du bruissement perpétuel de la vie qui nous entoure, écouter vraiment la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est notre consolation et nous comprenons en lisant la scène de la Transfiguration que nous sommes déjà citoyens des cieux, le royaume des cieux est déjà là, le reste n'est qu'accessoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.